de la vie et de la terre.
Seconde, cours de SVT, partie corps humain et santé. Les micro-organismes et l'homme, chapitre 1, micro-organismes pathogènes. Les maladies infectieuses sont les maladies causées par un agent infectieux, le plus souvent des micro-organismes. Certaines de ces maladies sont graves et peuvent entraîner soit des séquelles à vie, soit la mort. L'OMS, ou l'Organisation mondiale de la santé, dans son dernier rapport, avant le Covid, alerte sur le besoin de lutter efficacement contre les différentes maladies infectieuses, car elles sont responsables chaque année de millions de morts et paralysent parfois les services de santé ou les économies d'un pays. On voit à quel point cette organisation avait raison après 2 ans de pandémie. Ainsi, pour lutter contre les pathogènes, il est important en médecine de bien connaître les agents infectieux, responsables de la maladie étudiée, leur milieu et mode de propagation ou transmission, ainsi que leurs conditions de développement. C'est à ce titre que nous pourrons lutter efficacement contre ces maladies qui peuvent être à l'origine de crises terribles. Problème. Comment expliquer la propagation de certaines maladies? Comment lutter efficacement contre les épidémies? Grand 1, diversité des pathogènes et de leur mode de transmission. Grand A, quelques définitions. Agent infectieux. Un agent infectieux correspond à un micro-organisme, bactérie, virus ou parasite capable de provoquer une infection chez un organisme. Épidémie. L'épidémie est une infection transmissible chez l'homme, soit d'individu à individu, soit de l'homme à l'homme et s'étendant au-delà d'un foyer limité à une région, un pays ou un continent. Pandémie. Si l'épidémie touche plusieurs continents, alors on peut l'appeler pandémie. Endémie. Si une pathologie s'installe sans signe de disparition en un endroit, alors c'est appelé une endémie. Réservoir. C'est l'endroit où le pathogène est hébergé, survit ou se multiplie. Alors maintenant que nous avons posé quelques définitions, voyons grand B, diversité des agents pathogènes. Il existe une grande diversité des agents pathogènes, et ils peuvent être vivants ou non vivants. D'ailleurs, rappel, sont appelés vivants tous les organismes capables de se nourrir et de réaliser un métabolisme pour générer de l'énergie afin de construire leur propre matière organique et de se reproduire. S'ils sont vivants, les plus fréquents sont des parasites pluricellulaires, vers, champignons ou unicellulaires tels que des protistes, c'est-à-dire des cellules eucaryotes, seuls, ou des bactéries. On les qualifie aussi d'agents infectieux cellulaires. S'ils ne sont pas vivants, ils sont non cellulaires. Une forme principale prédomine, le virus, et une forme moins répandue existe aussi et s'appelle le prion. C'est une protéine pathogène. Tous ont la particularité de s'introduire chez un hôte afin d'y proliférer et de se multiplier à ses dépens. L'hôte constitue le milieu optimal et souvent obligé pour le développement du pathogène. Les préjudices à leur portée vont se révéler sous la forme de symptômes. Les pathogènes sont stockés dans des réservoirs humains ou animaux qu'ils affectent ou non. Si l'être vivant qui joue le rôle de réservoir n'est pas affecté par le pathogène, alors on le qualifie de porteur sain. Grand C. Mode de transmission des pathogènes. Connaître les modes de transmission est important pour prendre les mesures de soins et d'isolement du patient. La transmission peut être soit directe, soit indirecte. Voyons tout d'abord la transmission directe. c'est une transmission d'individu à individu. Elle peut être aérienne, dans ce cas-là ce sont des infections par voie pulmonaire, par la salive, gouttelettes, échange de nourriture, baisers, par contact, hygiène des mains, plaies, par rapport sexuel non protégé, infection sexuellement transmissible, par voie sanguine, échange de seringues par exemple. Supplément, il existe plusieurs voies de transmission pour certaines maladies. Par exemple, pour le VIH, ou virus d'immunodéficience humaine, ou pour le virus de l'hépatite B, la transmission peut se faire à la fois par voie sexuelle ou par le sang. Petit 2, la transmission peut aussi être indirecte. C'est une transmission qui nécessite l'intervention d'un intermédiaire appelé vecteur animé ou inanimé. L'eau et les aliments sont des vecteurs d'infection, exemple de vecteurs inanimés. Les animaux, et le plus souvent les insectes, à partir de réservoirs humains ou d'animaux, exemple de vecteurs animés. Les plus meurtriers d'entre eux restent les moustiques. Un de leurs représentants très célèbres ces derniers temps est le moustique tigre. Grand 2, deux exemples de maladies différentes. Grand A, le sida, une maladie à transmission directe. Le sida, ou syndrome d'immunodéficience acquise, est la maladie développée par un individu qui aura contracté le virus VIH ou virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus, VIH, désorganise le système immunitaire puisqu'il cible le coordonnateur de ses défenses, qui est le lymphocyte T4. Il s'introduit donc dans cette cellule, puis se multiplie et finit par détruire la cellule hôte en libérant de nouveau des milliers de virus. Ainsi, les défenses immunitaires et naturelles du corps contre les maladies sont donc insuffisantes, voire inefficaces. Des infections normalement anodines, comme une grippe ou une bronchite, peuvent s'aggraver, devenir très difficiles à traiter ou même entraîner le décès. De plus, le risque de cancer y est aussi accru. Alors, lutter contre le sida, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord d'avoir une politique de prévention. Le port du préservatif lors de rapports sexuels, la désinfection de matériel contaminé ou encore l'emploi de matériel à usage unique pour les toxicomanes sont d'excellents moyens de prévention. L'élimination de la transmission mère-enfant. Tout simplement, une mère séropositive peut transmettre le VIH à son enfant pendant la grossesse, mais surtout au moment de l'accouchement et au cours de l'allaitement. Un traitement pris pendant la grossesse, à l'accouchement et pendant la période postnatale permet de réduire ce risque à moins de 1%. Alors, quels sont les traitements dont nous disposons? La multithérapie ne guérit pas l'infection, mais empêche la réplication du virus dans l'organisme et permet au système immunitaire de se renforcer. Enfin, quels espoirs pour le futur, éventuellement de mettre au point un vaccin efficace contre la maladie. Grand B, le paludisme, une maladie vectorielle. Le paludisme entraîne plus de 400 000 décès par an dans le monde, et la plupart étant des enfants de moins de 5 ans. Petit 1. Agent infectieux et symptômes. Le paludisme est dû à un protozoaire du genre Plasmodium, dont il existe 140 espèces. Seuls 5 d'entre eux sont pathogènes, comme par exemple le Plasmodium falciparum. Ce dernier se situe surtout dans les régions équatoriales, où il est transmis toute l'année, et dans les régions subtropicales uniquement durant la saison humide et chaude, sa transmission s'interrompant en dessous de 18 degrés Celsius. Quels sont les symptômes? Lorsque la maladie est dite simple, le patient souffre essentiellement de fièvre, de frissons, de céphalées, c'est-à-dire de maux de tête, et de douleurs musculaires, à l'image d'un syndrome grippal. Souvent viennent se ajouter des troubles digestifs, tels que de l'anorexie, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et une fatigue excessive. Lorsque la maladie est complexe, on voit la détresse respiratoire prendre le dessus, des pertes de conscience et des complications neurologiques pouvant aboutir à la mort. Petit 2, le moustique, un tueur en série, car vecteur de maladie. Le paludisme est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique du genre Anopheles, qui est le vecteur au moment de son repas sanguin. Seule la femelle pique pour prélever du sang car il contient des protéines nécessaires à ses œufs, mais elle transmet en même temps la maladie. Elle ne pique qu'à partir du coucher du soleil avec un maximum d'activité entre 23h et 6h du matin. Le plasmodium doit obligatoirement traverser différentes phases de vie chez plusieurs hôtes successifs, le moustique et l'être humain. Au cours de ces phases, le parasite peut se multiplier ou subir différentes métamorphoses. L'ensemble constitue alors le cycle évolutif du parasite. Comment lutter contre le paludisme ? Alors tout d'abord, faire de la prévention. C'est-à-dire assurer une lutte antivectorielle, telle que avoir des moustiquaires imprégnés d'insecticides, ou pulvériser de l'insecticide à l'intérieur des habitations, ou posséder des antipaludiques et administrer des antipaludiques. C'est le principal moyen de prévenir et de réduire la transmission du paludisme. Si la couverture par les interventions de lutte antivectorielle est suffisamment élevée dans une région donnée, l'ensemble de la communauté sera alors protégé. Quels sont les traitements ? Le diagnostic et le traitement précoce du paludisme réduisent l'intensité de la maladie et permettent d'éviter le décès. Ils contribuent aussi à réduire la transmission du paludisme. Quels sont les espoirs pour le futur ? Exactement comme pour le sida, c'est de pouvoir obtenir des vaccins contre cette maladie. Grand 3. Comprendre les mécanismes de propagation des maladies pour une lutte efficace. D'abord une définition. Qu'est-ce que la prophylaxie ? La prophylaxie, c'est l'ensemble des moyens médicaux mis en œuvre pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension des maladies. Comprendre les mécanismes de propagation d'une maladie, c'est connaître son pathogène, son mode de transmission, ses vecteurs s'il y en a, ses conditions physico-chimiques optimales de développement et les réservoirs inertes possibles. Lutter efficacement contre la propagation de maladies, c'est faire de la prévention, limiter la multiplication des vecteurs, assurer des recherches en vue d'un traitement et créer un vaccin pour éradiquer la maladie. Conclusion. De nos jours, la population est énormément brassée par des flux importants, mondiaux, tant au niveau des personnes que des denrées alimentaires. Ces brassages favorisent aussi les échanges de pathogènes ou leur installation dans des pays où ils ne sévissaient pas. Pire, cela ouvre la voie des épidémies mondialisées ou pandémies, ce qu'exactement craint l'OMS. Si une maladie persiste dans le temps, comme le paludisme, elle est qualifiée d'endémique. Seulement, les changements climatiques pourraient aussi repousser les limites de telles maladies, dites tropicales, et on pourrait les voir apparaître dans le sud de la France de façon saisonnière. C'est ce qui est redouté avec l'implantation du moustique tigre, qui est un vecteur de plusieurs maladies, telles que la dengue, le chikungunya ou le virus Zika dont on a tant entendu parler au Brésil. Dans votre fiche récapitulative à la fin du cours, vous pourrez voir les mots-clés importants tels que les agents infectieux, épidémie, pandémie, endémie, réservoir et prophylaxie. Les notions clés à maîtriser, c'est-à-dire à savoir expliquer, sont pathogène, transmission directe et indirecte, vecteurs et réservoirs à pathogènes, cycle évolutif, traitement et prophylaxie, vaccin et enfin porteur sain. Les méthodes et compétences travaillées pendant ce chapitre sont exploiter des bases de données, l'histoire des sciences, observer des frottis de sang d'individus sains et malades au microscope, observer l'appareil buccal de vecteurs et construire un graphique. J'espère que ce cours vous aura permis de mieux comprendre les pathogènes et je vous souhaite de très bonnes révisions.